Le corps de la reine était un territoire en guerre, et les batailles les plus âpres s'y livraient la nuit. Dans le ciel noir, la lune était pleine ce soir, et le télescope royal pointait sur sa face blême. Tout un petit monde à l'organisation complexe s'y pouvait découvrir, les réseaux fluviaux et routiers, de couleurs différentes, les gigantesques usines de sélénium dont les cheminées fumaient jusque dans l'espace, les mines royales qui ressemblaient aux cratères météoritiques et dont la surface était toujours secouée d'une fièvre d'industrie. Mais la reine ne contemplait pas ce spectacle étonnant, cet univers miniature à la fois proche et lointain sur lequel elle régnait. À plusieurs mètres du télescope, elle était étendue sur un drap de soie que la sueur avait fripé et, en lieu de ciel, elle regardait le plafond, l'œil jaune, la paupière fébrile. Il y avait d'abord ses fièvres et ses sueurs nocturnes qui l'épuisaient, et puis les palpitations erratiques de son cœur qui modifiaient son rythme à chaque surgissement nouveau dans sa conscience. Le moindre souci, la moindre contrariété, provoquait des accélérations soudaines, et lorsqu'elle avait vraiment très peur, son cœur paraissait se suspendre comme un balancier capricieux entre la vie et la mort. C'était presque le cas cette nuit, car l'entretien avec le fou l'avait plongée dans des affres émotionnelles ineffables. Elle ne pouvait se cacher à elle-même son intime conviction. Ce jeune homme était le sauveur du royaume, et l'espoir qu'il suscitait faisait danser son sang dans ses veines à un rythme effréné. Mais il avait aussi posé des questions bien troublantes, des questions comme des graines séditieuses dont les réponses impliquaient des changements profonds. Et la reine, entre toutes les choses, avait une grande angoisse du changement. Enfin, il y avait eu les mots sifflés par la cartomancienne. La grande cartomancienne en colère était probablement le pire cauchemar de la reine, et elle songeait déjà avec effroi qu'à cette colère, il allait falloir immoler le jeune homme auquel son cœur vouait pourtant indubitablement une sorte de tendresse. N'avait-il pas baisé ses mains avec la plus grande douceur? Comment les avait-il appelés déjà? De frêles branchages rongés par le givre. Le fou était un poète, et de toutes les personnes qui l'entouraient, il était l'un des seuls, le seul peut-être, qui ne lui faisait pas peur. Car la reine avait peur de tous les autres, de l'aveugle hystérique, des exégètes aboyants, des gardes qui vous désintégraient les condamnés de leurs grosses mains velues. Elle avait même peur du palais, de ses doubles fonds, de ses antichambres vides, de ses querelles silencieuses qui se taisaient toujours lorsqu'elles paraissaient. Et toutes ces peurs, la nuit, se transformaient en crapauds, en vers, en flammes, qui tourmentaient son corps de mille façons. Son sexe suintait continuellement un sang brun et coagulé. Ses seins lui pesaient, lui faisaient mal, ses tétons gercés la brûlaient. Son ventre surtout, comme habité d'étranges créatures, ondulait, gonflait, se tordait. Il était pris de spasmes et de crampes, dans une digestion éternellement empêchée. Sa gorge, enfin, se serrait parfois jusqu'à l'étouffement. Lorsqu'elle entendit du bruit dans son antichambre, les douleurs se suspendirent et elle resta béante. Des voix humaines, si rares dans le silence angoissant de la nuit, parlaient. « Je te dis que je dois voir la reine de toute urgence, c'est à propos du fou. »« Mais les consignes sont les consignes, on ne doit pas pénétrer chez la reine la nuit. »« Et s'il arrivait une guerre nucléaire, on la laisserait dormir peut-être ? » C'est à ça que ça sert, les souverains, à se faire réveiller la nuit pour s'occuper des affaires de l'État pendant que les braves citoyens n'en savent rien. » « Mais quand même, j'ai reçu des ordres clairs. Oh, il y a des moments où il faut faire preuve d'initiative, mon vieux. Il me semble qu'il n'y a pas urgence. Je ne sais pas ce qu'il te faut. Le fou doit sauver le royaume, ça ne sonne pas urgent à tes oreilles ?»« C'est important, mais pas urgent. Urgent, c'est pour les attentats, les catastrophes, les tremblements de terre, les déclarations de guerre, les ordres de la cartomancienne, les douleurs de la reine. Ça, un fou qui sauve le royaume, ça rentre pas dans ma définition. » La reine, prise d'une impulsion subite et parfaitement inhabituelle, couvrit sa nudité d'un peignoir de soie et déverrouilla un à un les 13 verrous de sa porte, ce qui laissa largement le temps aux deux personnages dans l'antichambre de rajuster leur uniforme et de préparer un petit discours. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle très poliment. Matt la regarda dans les yeux, sans savoir s'il espérait qu'elle le reconnaîtrait malgré son déguisement, ou si précisément il espérait le contraire, les deux cas lui paraissant également incertains et dangereux. Ma reine, je dois vous voir absolument, à propos du fou. La reine éperdue se rendait compte qu'il n'y avait personne autour d'elle pour prendre la décision à sa place. L'autre garde paraissait attendre docilement l'expression de sa volonté. Alors, mue par une sorte d'ivresse d'indépendance, la même qui pousse les enfants à braver la très forte probabilité d'une chute douloureuse pour le plaisir de pédaler pour la première fois sur leur vélo, la reine donna un ordre simple, clair, royal. Laissez-le entrer et qu'on ne nous dérange sous aucun prétexte. Tandis que la reine refermait les 13 verrous, Matt ne réfléchit pas et céda à son instinct en retirant de son torse la défroque puante du garde, si bien que lorsque la reine se retourna, elle le vit à demi nu. Elle eut un moment de silence et de vertige devant ce corps si jeune qui paraissait si heureux. Et lui, conscient du trouble qu'il provoquait, la regarda autrement. Elle paraissait toujours maigre et fiévreuse, mais sa flétrissure lui paraissait maintenant remédiable. Elle était si sensible à la souffrance, cela se lisait sur chaque pouce de sa chair, qu'elle devait être également prodigieusement sensible au plaisir, comme un instrument de musique miraculeux dont personne n'avait su jouer et dont on n'avait su tirer que des grincements lorsqu'il renfermait les harmonies célestes. Une femme dont le corps était un paysage si aride devait pouvoir refleurir, et l'envie le prit tout à coup de se faire soleil et pluie, d'ensemencer cette terre brûlée. Il désira étrangement cette femme fanée, à la chevelure malade, aux doigts écorchés. « Vous m'avez reconnue, n'est-ce pas ? Vous êtes le fou, dit-elle, je n'ai pas peur de vous. Je ne vous ferai aucun mal. Vous êtes venu pour me sauver ?» Tandis qu'ils échangeaient ces répliques, ils s'étaient insensiblement rapprochés. « Vous devrez quitter le palais avant l'aube, ajouta la reine. La cartomancienne a ordonné votre exécution. Vous m'aiderez ? Oui, vous passerez par cette porte dérobée, personne n'en connaît l'existence. » Avant que nous n'allions plus loin, je voulais vous dire trois choses à propos du royaume. La reine retira son peignoir, avec une impudeur toute royale, et s'assit sur le lit. Je vous écoute. Vous devez donner l'indépendance à la lune. Les Sélénites en ont assez du statut de colonie, ils fomentent complot sur complot. Vous gagneriez beaucoup à former une fédération équilibrée entre les deux planètes. La reine détestait la politique et avait beaucoup de peine à se concentrer sur ce que Matt disait. Mais elle fit effort pour imprimer ces mots dans sa mémoire, afin d'y repenser le lendemain. Et puis, ouvrez les fenêtres du palais, faites un grand courant d'air, laissez entrer la lumière du progrès, chassez-moi tous ces moyenâgeux. On ne gouverne pas un royaume avec des chiffres, des cartes et des aveugles qui chantent. Mais la cartomancienne ? Matt éclata de rire. Vous n'avez qu'à la nommer à la tête de la lune, plaisanta-t-il. Et dernière chose, les pages, remplacez-les par un micro. Est-ce tout ce que vous aviez à me dire ? Oui, ma reine. Alors, maintenant, il faut vous taire, parce que je me meurs de tous ces bavardages. Ce qui se produisit alors fut très étrange. Pour être plus précis, il se produisit ce qui devait se produire, une scène banale entre toutes, mais les conséquences en furent étranges. L'étreinte de Matt fut tout d'abord pleine de délicatesse. Il était la santé et la jeunesse, imprégnant en douceur le corps maladif de la reine. Ses mains réparatrices prodiguaient un baume, ses baisers refermaient les plaies et effaçaient les cicatrices. L'amour physique qu'il parvenait à dispenser semblait infusé jusqu'à l'âme de la reine, dont l'épanouissement progressif, lent tout d'abord, puis exalté, ne semblait avoir aucune limite. Et puis, au milieu de la nuit, alors que Matt se sentait engourdi dans le bien-être silencieux de la chair assouvie, quelque chose s'était inversé entre la reine et lui, et soudain, il ne fut plus le dispensateur volontaire, mais l'esclave, dont l'adhésion n'était plus nécessaire. La reine se servait de son corps, comme elle lui fait d'une machine, et Matt, dans un effroi grandissant, la voyait se transformer dans la pénombre éclaboussée de lune. Elle était devenue insatiable et presque violente. Elle le mangeait, le buvait, aspirait sa substantifique moelle, et il avait par-delà une superficielle sensation de plaisir, la désagréable impression de devenir une enveloppe vide, dont tout le sang, tout le principe vital, nourrissait son vampire. Au matin, enfin, la reine, qui paraissait presque avoir grandi pendant la nuit et dont le corps rayonnait, s'assoupit, et Matt lutta avec beaucoup de difficulté pour ne pas s'endormir lui-même. Il eut juste assez de présence d'esprit pour filer, nu, par la porte dérobée. Le lendemain fut jour de grande désintégration. On n'avait pas connu une telle hécatombe depuis l'avant-dernier roi. La reine, levée bien avant tout le monde, couronnée, sanglée dans sa tenue d'apparat, avait commencé par réveiller sa garde. Un garde un peu récalcitrant ayant été désintégré bien proprement, le reste se montra particulièrement zélé, et le cortège improvisé déboula dans les couloirs du palais avec force cliquetis d'armes et bruit de bottes. Les pages, les premiers, furent boutés hors du palais, sans trop de pertes humaines. Mais il n'en alla pas de même avec les herméneuticiens, les exégètes, les médecins, les numérologues, les sages sans spécialité et autres vieillards fragiles, qui furent évacués sans ménagement. Tous ceux qui boitaient, qui traînaient la patte, qui protestaient, qui retardaient leur départ en emportant leurs affaires, furent désintégrés en une fraction de seconde, et, une fois les portes du palais ouvertes, la reine ordonna également d'en ouvrir toutes les fenêtres pour faire partir les influences moyenâgeuses, comme elle le disait. On lui obéit, sans chercher à comprendre ce qu'elle entendait exactement par là. Reconnaissant à ce vacarme l'indice d'une révolution de palais, la cartomancienne n'attendit pas son tour, et abandonnant sans scrupule ses aveugles effarés et autres étudiants indécis, elle parvint à prendre le large quelques minutes avant l'arrivée fracassante de la garde royale. Les malheureux apprentis firent les frais de la déception de la reine, qui entra en fureur lorsqu'elle comprit que la cartomancienne l'avait devancée. 8 d'entre eux furent désintégrés sans le moindre état d'âme, avant que la reine ne se sente un peu calmée. Elle décida alors de proclamer de nouveaux décrets, et après avoir eu bien du mal à trouver un greffier compétent, qui ne fût ni mort, ni échappé, ni séditieux, elle légiféra toute la matinée. Les conditions de la colonie sélénite empirèrent considérablement. Les savants de tout poil furent condamnés à mort par contumace, à l'exception des astronomes. Les gardes virent leurs astreintes redoublées. On enferma dans un harem une 20aine de jeunes nobles non encore mariés, avec obligation d'en capturer un nouveau chaque semaine. La désintégration remplaça la peine de détention, dans presque tous les cas. Bref, le palais entra de plein pied dans une nouvelle ère de puissance et d'autorité, dont une partie non négligeable de la population trouva même le moyen de se réjouir. La reine, dont la personnalité longtemps contenue éclatait maintenant comme une foudre, était si bien guérie qu'elle en devenait méconnaissable. À quelques kilomètres de là, Matt, parfaitement insoucieux des conséquences innombrables de son entrée en scène, était en train de dormir dans un hamac improvisé, dans l'arrière-salle de l'écran explosé, où il avait ses entrées grâce aux bonnes grâces d'une cuisinière. La nuit précédente l'avait si fort éreinté qu'il dormit même 24 heures de suite, pour se réveiller frais, dispos et le ventre creux, le matin suivant. Il s'était attablé pour manger des restes de la veille, artistement réchauffé et disposé par son ami, lorsqu'il reconnut à une table écartée deux des sages du palais. Un numérologue peut-être et un exégète qui conversaient à mi-voix, le regard aux aguets. « Et la cartomancienne ? On dit qu'elle a réussi à prendre une navette pour la lune. Elle aura eu plus de chance que ses apprentis, les malheureux. » « Vous savez, plus j'y pense, plus il me vient un doute affreux. »« Un doute ? Mais oui, vous rappelez-vous le tirage, les cartes de l'avenir ? Tout à fait, l'arcane 0 et l'arcane 13, le fou et la mort. »« C'est bien là tout mon questionnement, très cher. La cartomancienne est partie sur une interprétation très cohérente. Je ne nie pas son talent, elle est absolument brillante dans son herméneutique. Mais si elle s'était trompée juste cette fois ? Que voulez-vous dire, mon cher ? Eh bien, si mes souvenirs sont exacts, elle a dit quelque chose comme « La carte de la mort est comme un ultimatum, mort ou renaissance. La ruine qui menace le royaume serait une destruction. Le fou, en revanche, apporterait la renaissance. » Quelle mémoire, mon ami ! On reconnaît là les vrais érudits. Mais oui, ce sont tout à fait ces termes. Eh bien, elle a tout misé sur le double sens de l'arcane 13. Mais dans certains cas, la mort signifie seulement la mort. Et associée au fou, elle pouvait très bien signifier seulement une mise en garde. Mon Dieu, la carte du chariot indiquait deux directions possibles, le salut ou la destruction, n'est-ce pas ? Absolument, absolument. Et là-dessus, le fou, puis la mort. Les deux compères se regardaient dans le blanc des yeux, se comprenant à demi-mot. Il arrivera un fou qui apportera la mort. Voilà ce que disaient les cartes. Ils se mirent alors à hocher la tête tristement, de l'air amer de ceux qui ont percé les mystères, mais à qui cette connaissance n'apporte rien. Il paraît que la reine le recherche pour le confiner dans son harem, et la cartomancienne aussi pour se débarrasser de lui. Imagine-t-elle que sa destruction puisse enrayer la catastrophe ? Je ne sais, mon cher, je ne sais. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, mais je n'ai jamais été dans ses petits papiers. Matt, qui avait avalé goulûment, mais le plus silencieusement possible, son assiette de reste, afin de ne pas perdre une miette de la conversation, se retira discrètement dans l'arrière-salle. La décision de partir s'était formée dans son esprit pendant son repas. Si la reine le cherchait, n'allait-elle pas inévitablement demander aux gardes où il l'avait trouvé ? L'écran explosé était la pire cachette qui fût. Quant à se laisser confiner dans un harem après la nuit qu'il avait passée, il n'en avait pas la moindre envie. Restait donc la solution la plus radicale et la plus efficace, la navette pour la lune. Il lui resterait peut-être encore à circonvenir la grande cartomancienne, mais elle lui paraissait un ennemi moins redoutable que la reine, dont il avait entrevu l'appétit de puissance et qui s'appuyait maintenant sur tout l'arsenal du pouvoir. Après quelques questions à la complaisante cuisinière, qui satisfit sa curiosité quant aux différentes horreurs et exactions commises par la reine depuis la veille, Matt reprit donc son baluchon. Vous l'aurez compris, le propos de cette modeste chronique n'est que de s'attarder sur le point de basculement, sur la perte d'équilibre qui constitue l'essence même de tout récit. Nous laisserons donc la terre, sa reine démente et ses sujets impuissants, afin de nous intéresser au changement de nos autres personnages. Métamorphose, exil, travestissement, fuite ou départ en quête, les changements de nos deux derniers personnages seront nécessairement parallèles, car Matt le Fou et la grande cartomancienne, issus de la même matrice narrative, furent jetés dans la même trajectoire suborbitale en direction de la Lune. Et pour faire bonne part au goût quasiment universel pour les boucles qui se bouclent et autres âneries cycliques, tout se terminera donc par l'une de ces maudites séances de cartomancie. Lorsqu'il la vit arriver, Matt la reconnut tout de suite. On ne cachait pas impunément 2 mètres de chair imposante, et les cheveux coupés ras, le costume d'homme et les lunettes de soleil étaient un piètre déguisement. Cela faisait au moins 3 mois qu'il l'attendait, 3 mois qu'il tenait cette échoppe de divination crasseuse qu'il avait gagnée au jeu et qu'il disputait âprement aux rats et aux puces depuis son installation. Il fallait avouer que la Lune était d'un confort plutôt sommaire et que la mer de la tranquillité portait assez mal son nom. Enfin, c'était un endroit comme un autre, après tout, où l'on trouvait de jolies filles, comme partout, et où l'on pouvait se débrouiller. La divination marchait bien dans ces terres de misère. La base où il avait trouvé refuge était de ces lieux anonymes et sans intérêt, où ne se trouvent que ceux qui y vivent. Les soldats de la reine n'avaient jamais été vus en ces lieux. La reine elle-même et le palais, et tous les événements auxquels Matt avait été mêlé, résonnaient ici comme une mauvaise fiction, dans l'indifférence générale. La cartomancienne, en revanche, était un éternel sujet de rumeurs. La cartomancienne, ou plutôt, le molosse. On disait qu'il cherchait un fou dans toutes les faces cachées de la Lune, et que le sort de ce dernier ne serait pas enviable. On disait qu'il était têtu, inlassable, et qu'il se laissait guider par des cartes. Ce fut cette dernière rumeur qui détermina Matt à ouvrir une échoppe de divination. Il voulait confronter la cartomancienne, et il voulait qu'elle ne le reconnût pas. Il voulait qu'elle reparte loin de lui, persuadée d'avoir fait fausse route. Il voulait, tout au bord du danger, lui glisser des idées dans l'esprit. Il voulait lui lire les cartes. La cartomancienne avait suivi les indications compliquées de son tarot pour aboutir ici, dans ce non-lieu absolu, et quand elle se trouva face à la voyante, au milieu de vagues breloques ésotériques, elle se demanda si tout cela n'était pas qu'une vaste fumisterie. Elle ne ressemblait à rien, cette voyante. Des lèvres rouges et pulpeuses, un duvet brun sur la lèvre, des yeux charbonneux, les cheveux relevés par un bandeau d'un rouge brillant. Elle avait un troisième œil tatoué sur le front, ou peut-être était-il juste dessiné au crayon. Elle paraissait assortie à son échoppe, poussiéreuse, sans âge, échouée là dans l'abîme du temps. Sa voix même était voilée et rauque, comme si elle parlait depuis un ailleurs lointain. « Boule de cristal, thé, entrailles, mains, astres ?» demanda Matt sans enthousiasme, comme s'il récitait un éternel boniment. « Carte !» répondit la cartomancienne sans hésiter. « Ce n'est pas ma spécialité !» dit Matt d'un air revêche. La cartomancienne eut un geste agacé. « Les cartes m'ont mené jusqu'à vous. Je suppose qu'il y a une raison à cela. » « Les suppositions ne coûtent rien, mon cher, contrairement aux prédictions. Ça fera 10 pièces pour un quart d'heure, payable d'avance. » La cartomancienne maugréa et sortit l'argent que Matt affecta de compter plusieurs fois. Il était essentiel que son personnage soit énervant, car l'antipathie obscurcissait le jugement. Il ressentait une étrange excitation, mêlée de peur. Ce numéro d'acteur était de loin le plus grandiose de sa carrière de saltimbanque, et s'il en réchappait, il en concevrait une éternelle fierté. « Je pratique le cercle magique de Salomon, » dit Matt, d'un ton sans réplique. « Comme vous voulez, tous les tirages me conviennent. » Matt disposa le paquet de cartes face cachée sur la table. La cartomancienne, qui était fort mal installée et fort encombrée de son grand corps dans cet espace exigu, se tortilla un moment avant de se déclarer prête. « Alors, » dit Matt sans enthousiasme, « commençons par le commencement. La carte qui vous désigne, vous. » La cartomancienne avait gardé ses lunettes noires et ne voyait pas très distinctement dans le local envahi de pénombre. Cela l'agaçait. Elle laissa aller ses mains sur le paquet, ce n'était pas du tout la même sensation que lorsqu'elle effleurait ses propres cartes, qui vibraient, l'appelaient, lui chuchotaient des choses dans son esprit. Ces cartes-là n'étaient pas les siennes. Elle devait chuchoter des choses à la voyante, du moins elle n'avait qu'à l'espérer. Elle choisit néanmoins une carte, un peu dissimulée sous d'autres. Matt, qui avait marqué toutes ces cartes, dont le dos crasseux n'était plus de la première fraîcheur, la reconnut tout de suite et eut quelques fractions de secondes d'avance pour préparer son boniment. C'était essentiel, quelques fractions de secondes dans le métier. C'était tout l'avenir qu'il était capable de prédire, mais c'était déjà beaucoup. Il retourna lentement la carte. Il s'agissait du bateleur. « Vous êtes habile et d'une intelligence hors du commun, supérieure, je dirais même, et cela vous donne sur les autres un avantage certain, dont vous profitez parfois. Vous êtes dans l'un de ces moments de votre existence, en train de faire illusion, de créer de toutes pièces une image de vous qui n'est pas vous. Manipulation, mensonge, fausse identité peut-être. Je ne voudrais pas être insultante, mais les cartes me murmurent que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. » « Vous êtes doué, » fit obligeamment la cartomancienne, « et vous n'y allez pas par quatre chemins. » Matt la fixa un instant, perplexe, puis enchaîna. « Deuxième carte, qui recouvrira la première transversalement, vos influences immédiates. » La cartomancienne choisit la carte à l'extrémité droite du paquet. Il s'agissait du chariot. Elle ne put retenir un soupir d'appréciation quand Matt retourna la carte. « Vous êtes animé d'un esprit de vengeance, on dirait, ou d'un esprit de croisade. » Vous partez en guerre à la poursuite d'un ennemi, mais ce grand mouvement qui vous met en branle n'est pas encore clair. Vous êtes appelé dans deux directions, sur deux mondes, peut-être deux planètes. Peut-être avez-vous deux ennemis à poursuivre et ne savez-vous par lequel commencer. La cartomancienne paraissait extrêmement attentive et semblait prendre très au sérieux tout ce que Matt disait. Grisé par ce demi-succès, il parlait de manière plus fluide, plus convaincante. L'entraînement intensif qu'il avait eu pendant ces 3 mois lui était d'un immense secours. Broder des discours à multiples sens pour toutes sortes de clients était devenu une activité presque inconsciente chez lui. « Deux ennemis à combattre? Vous êtes sûr? Voulez-vous que nous posions la question aux cartes? Cela ne va pas briser le cercle de Salomon? Je suis assez souple dans mon tirage. Je pense qu'on peut enrichir le cercle avec un petit nombre de questions supplémentaires. Que voudriez-vous savoir? Qui sont mes ennemis? « Vous avez posé la question, je dois tirer la carte. » La cartomancienne s'inclina, et Matt rentra le menton dans le cou, afin de laisser son troisième œil balayer le paquet. Ce petit jeu de scène avait toujours beaucoup d'effet, mais il ne parut pas impressionner la cartomancienne. Il ne fallait pas se tromper, il ne fallait surtout pas se tromper. Matt retourna lentement la carte, en priant pour que la goutte de sueur qui perlait de son front ne se remarquât pas. « Les amoureux ?» s'écria la cartomancienne. « Il s'agit peut-être d'un symbole, » hasarda Matt, indécis. « Vos parents peut-être, ou un couple dont vous seriez proche, à moins que vous ne soyez vous-même amoureux et que vous ne cherchiez vengeance de votre partenaire. Cela me semble assez probable, en fait. »« Non, » dit la cartomancienne. « Non, tout c'est clair, ils ont été amants. »« Vous comprenez ce que disent les cartes, car elles me semblent assez obscures. » « Je comprends très bien, » dit la cartomancienne avec un peu d'exaltation. « Continuez le cercle, je vous prie. »« Très bien, » dit Matt. « J'espère que la question supplémentaire ne l'aura pas brisée. »« Nous allons le savoir tout de suite. Quand les cartes refusent de parler, elles se mettent à divaguer et on est obligé d'attendre qu'elles se calment. »«
Vous êtes du métier ?» demanda Matt malicieusement.
« Non, un peu. Enfin, je l'ai été. »«
Les hommes sont rares, » observa Matt.
« Et, en général, peu doués. » ajouta la cartomancienne. « Continuez. » La troisième carte située au-dessus de vous désigne votre passé lointain qui n'a plus d'influence sur vous. La cartomancienne tira une carte située en dessous de toutes les autres. « Le roi !» dit Matt avec une feinte surprise. « Vous avez exercé un pouvoir temporel où vous étiez proche d'un homme qui exerçait le pouvoir. Vous avez eu des responsabilités politiques, quel que soit le sens que l'on puisse donner à ce terme. » Vous avez pris des décisions, influé sur des événements. Mais cela n'est plus. Passez à la suivante. Le passé proche, qui résonne encore en vous et vous motive. La cartomancienne hésita longtemps, se concentrant sur son passé proche. Les dernières semaines sur la Lune, les recherches infructueuses, la piste du fou. Elle hésita entre deux cartes que Matt reconnut à leur marque, le fou et le pendu. Elle finit par choisir le pendu.
« Très intéressant, » murmura Matt. « Vous vous êtes mise de vous-même dans une situation très inconfortable, qui ne vous plaît pas d'ailleurs, et dont vous ne parvenez pas à vous sortir. Serait-ce cette fameuse croisade ou cette vengeance qui vous anime ? Elle vous place en porte-à-faux avec vous-même, vous empêche de vous remettre à l'endroit. Cette fausse situation vous pèse. À ces mots, la cartomancienne retira brusquement ses lunettes de soleil, et Matt sentit la goutte de sueur perler sur son front, exactement à l'endroit du troisième œil. Oh, votre troisième œil verse une larme, dit la cartomancienne en riant, les yeux écarquillés. Matt s'essuya délicatement du revers de la main. La cartomancienne ne sciait pas, mais il savait qu'elle ne pourrait se retenir indéfiniment. Il viendrait bien un moment où elle fermerait les paupières, et alors, il faudrait feindre la surprise, peut-être l'effroi. Cela compliquait diablement le jeu. Nous arrivons à une carte cruciale. Quelle question vous posez-vous ? Qu'est-ce qui habite votre esprit ? Vers quoi êtes-vous tourné ? La cartomancienne, cette fois, n'hésita pas et choisit le fou. L'arcane zéro, dit Matt, après un petit silence. La cartomancienne ne sciait toujours pas, et Matt fut obligé de continuer. Vous êtes obnubilé par un personnage insignifiant et sans conséquence, un vagabond poursuivi par le destin, qui ne choisit pas même ses actions, et se fie éternellement à sa bonne étoile. Un enfant, peut-être, que vous aimeriez particulièrement ? La cartomancienne hocha la tête négativement, toujours sans ciller. Alors peut-être cet amoureux dont nous parlions tout à l'heure, un rival sans doute plus heureux que vous. Je vous propose de retourner tout de suite la carte suivante, qui désigne le lieu, l'espace où tout se noue, le cœur du nœud gordien. La cartomancienne fronça le sourcil. Je ne connais pas cette variante, dit-elle d'un ton suspicieux. Je l'ai mise au point moi-même. Des larmes commençaient à perler dans les yeux écarquillés de la cartomancienne, et elle scia un bref instant. Matt ne fut pas obligé de feindre le malaise profond que cette vue lui causa. Les paupières tatouées le regardaient de leur regard aveugle et fixe de statue, dans le visage mobile, avec les cils en bas, c'était proprement effrayant. « Mon Dieu » bégaya-t-il, « vous auriez pu me prévenir, il y a de quoi faire un malaise cardiaque !»« Excusez-moi, » murmura la cartomancienne en le dévisageant. Quelque chose lui semblait familier dans ce visage apeuré, mais elle ne se rappelait pas quoi. On dit que sur Terre, les voyantes font souvent ce genre de choses.
Ah oui ?
On dit que la grande cartomancienne a les yeux crevés, ajouta-t-il plus bas.
C'est ce qu'on dit.
Matt se sentait trembler sous les deux regards terribles, d'autant plus que maintenant, la cartomancienne sciait frénétiquement, comme pour laver ses yeux de toute la sécheresse accumulée.
L'espace où tout se noue ? Reprit Matt d'une voix de fossé.
La cartomancienne retourna la carte la plus en évidence. C'était la lune. « La lune !» dit-elle triomphalement. « C'est bien ce que mes cartes me disaient. »«
Ah, excusez-moi du peu, ce n'est pas du tout mon interprétation. La lune ne signifie pas la lune, ce serait trop simple. Ce sont des symboles, mon cher, ne l'oublions pas. L'espace où tout se noue, c'est un lieu de regret et de désolation, un lieu de deuil, d'infinie tristesse, plongé dans une nuit obscure. »
Et pourquoi ne serait-ce pas la lune ?
Peut-être un lieu particulier sur la lune, je ne dis pas. Encore que, d'après les événements récents, le lieu de désolation et de deuil serait plutôt la Terre.
La cartomancienne hocha la tête. Elle était ébranlée, mais pas encore convaincue.
Le lieu où tout se joue, où le nœud gordien doit être tranché, est celui où la nuit s'est abattue, celui où la peur plonge le monde dans une éternelle pénombre, celui où règnent les larmes. « C'est là que vous devez aller. »«
Que dois-je faire ?» demanda la cartomancienne.
« Vous avez là posé la question ? Je tire la carte. » Matt hésita longuement. La cartomancienne suivrait certainement l'avis de cette dernière carte, et il fallait la renvoyer sur terre. Fallait-il choisir la force ? La justice ? Le jugement dernier ? L'impératrice ?
Matt renouvela la mise en scène de son troisième œil, qui lui parut vraiment ridicule à côté des paupières de la cartomancienne, puis il se décida.
La papesse, murmura-t-il avec une feinte surprise. C'est évident, cela fait sens.
Comment la lisez-vous ?
C'est une figure puissante. Je serais tentée de dire qu'elle s'oppose aussi bien au bateleur qu'au chariot. Elle est votre véritable identité, votre moi profond, débarrassé de l'agitation inutile qui rit de sa surface. La papesse est infiniment sage et immobile. Elle est immémoriale, souveraine. Elle a été bannie par le pouvoir charnel et temporel de l'amour, et ce bannissement a été source de désolation. Vous devez maintenant retourner sur le lieu des larmes et recouvrer votre place immémoriale, votre puissance, votre fonction. » Matt était assez fier de lui et se dit que, même s'il échouait, il avait du moins donné le meilleur de lui-même. « Vous ne dites rien du fou, » observa la cartomancienne. « Le fou n'existe pas, il n'y a pas de fou. Le fou est une chose écuelle sans savoir. Le fou est une écaille sur vos yeux. » Le regard qu'ils échangèrent dura longtemps. Les deux paires d'yeux de la cartomancienne clignotant de manière schizophrénique face aux trois yeux charbonneux et humides de Matt. Le regard de la cartomancienne semblait dire « Je te tuerai si tu me trompes ». Et le regard de Matt disait « Je suis la voix de la sagesse ». Au bout d'un moment qui parut à Matt beaucoup plus long que les trois derniers mois réunis, la cartomancienne remit ses lunettes de soleil d'un geste décidé. « Merci, » finit-elle par dire. « Ce fut une séance d'un grand intérêt. » « À votre service, » dit Matt d'un ton indifférent. « Les hommes sont pourtant particulièrement mauvais à cet exercice d'habitude. » Matt eut une désagréable accélération du cœur et ne sut que répondre tout d'abord. « Les hommes dénigrent rarement les hommes d'ordinaire. » « Qui suis-je pour vous ?»«
Un client de passage. »«
Vous savez, ce n'est pas à vous que je fais confiance. C'est à elle, » ajouta-t-elle en montrant le jeu de cartes. On ne peut pas faire confiance à un travesti, et moins encore quand il est fou, n'est-ce pas? Mon conseil à moi, et faites-en ce que bon vous semble, c'est de rester bien sagement sur la lune. » Sur ces mots sibyllins, la grande cartomancienne quitta l'échoppe. Sa présence massive, rayonnante, ne fut soudain tout simplement plus là, et tout ce qu'elle irradiait de danger et de puissance, tout à coup, disparut. Son départ, bien sûr, annonce la fin toute prochaine du récit. Matt ne put retenir un petit rire à l'idée de sa liberté recouvrée, de sa supercherie réussie. Mais était-ce bien une supercherie et avait-elle vraiment réussi? Il cessa de rire envahi par le sentiment obscur que la cartomancienne l'avait démasqué, mais qu'elle avait accepté l'arrêt des cartes. Elle avait retrouvé le fou et compris qu'elle faisait fausse route. Elle l'avait épargné contre toute attente, simplement parce qu'elle était persuadée que les cartes disaient vrai. C'était étrange, cette croyance inébranlable. Matt savait qu'il avait triché et manipulé le jeu, et il était presque sûr que la cartomancienne faisait exactement la même chose lorsqu'elle tirait les tarots. Mais cela ne semblait pas invalider quoi que ce fût. Matt était en train de jouer machinalement avec les cartes de tarot. Les arcanes lui étaient devenus étrangement familiers, comme des photographies de famille ou des portraits anciens, profondément évocateurs. Qu'allait-il se passer ensuite dans le royaume ? Ses mains, machinalement, qui mélangeaient les cartes, en tirèrent une. La justice. Et pour la cartomancienne? Ce fut la force. Et pour lui-même? L'arcane 18 représentait un ciel nocturne, d'un bleu sombre, en haut duquel s'argentait une lune au visage triste et mystérieux. Des gouttes scintillantes s'échappaient de sa face blême et descendaient vers le bas. Au sol, on devinait un homard, luisant à peine au fond d'un bassin d'eau morte. Et l'on voyait surtout deux chiens, assis, se faisant face, légèrement différents l'un de l'autre, peut-être un chien et un loup, la tête levée vers l'astre triste qui laissait tomber sur eux sa fine rosée de larmes. Et Matt, perplexe, se mit à méditer sur l'arcane muet, comme s'il contenait dans ses replis secrets le sens profond de toute cette histoire. La lune était la face sombre et cachée des événements humains. La lune était la part de l'inconscient et du rêve, le visage trouble de l'irrationnel, la source mystérieuse de la magie et de la création, dont s'écoulaient tous les fleuves de l'art et tous les torrents du récit. Voici comment s'achève cette étrange chronique que les exégètes du royaume auront sans doute, et c'est justice, bien du mal à déchiffrer.